Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
Quick going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah!
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 647 du podcast Jeune Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief NFL. À mes côtés cette semaine, Grégory Richard est là, bonjour.
Bonjour messieurs, bonjour à tous.
Raphaël Masmejean est revenu de Londres, bonjour Raphaël.
Salut Alain, salut Grégory, salut à tous.
Je réalise qu'à une époque, je te demandais si t'étais encore en t-shirt parce qu'il faisait froid quand on débriefait, mais là, c'est normal. Il fait 45 degrés à Paris aujourd'hui, donc tu es en t-shirt, Raphaël.
Tout à fait, tout à fait.
C'est l'avantage, tu pourras vivre en t-shirt maintenant toute ta vie. Tu étais en t-shirt à Londres aussi, je suppose.
J'étais en t-shirt à Londres, il faisait un ciel bleu parfait, londonien, que je n'attendais pas clairement un 8 octobre. J'avais pas anticipé ça, mais c'était pas désagréable, écoute.
J'ai quelques souvenirs de matchs londoniens un peu froids au niveau des orteils, honnêtement, au mois d'octobre. Donc ça n'a pas toujours été grand ciel bleu. Bon, en tout cas, j'espère que ça va bien pour vous deux, messieurs. On s'attaque à un énorme dossier cette semaine. J'espère que vous êtes en forme. On va parler des New England Patriots, ou plutôt évidemment les has-been de la NFL, les ringards, les ringos de la NFL, direction Londres, évidemment, dans la foulée, où on parlera de ce que Raphaël a vu entre les Jaguars et les Bills, et puis toutes les rencontres de la semaine 5 en NFL, c'est maintenant.
Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Patriots 0, Saints 34, c'est notre premier match de la semaine. La semaine dernière, les Patriots ont encaissé la plus large défaite de la carrière de Bill Belichick. Cette semaine, ils enchaînent avec la deuxième plus large défaite de la carrière de Bill Belichick. La défense des Saints a complètement mangé les Patriots. Aucun point, donc on l'a dit. Seulement 8 first down pour les Patriots en 14 possessions. 3 ballons perdus, 156 yards au total. Est-ce qu'il est temps de remettre en cause Bill Belichick et même de se poser de la question de son départ, messieurs? Je vois Greg qui souriait un petit peu pendant l'énoncé des faits.
Je ne suis que joie, moi, de toute façon. Peu importe, au bout du compte, la vie continue, mais non, blague à part. Est-ce qu'il faut commencer à remettre en cause Bill Belichick? Je pense que oui. Mais après, est-ce qu'on commence? Je pense que certains l'avaient déjà plus ou moins fait avant ce week-end. Mais c'est vrai que là, malheureusement, on sent une équipe qui est quand même hors du coup. Ce qu'on n'a pas vu depuis très très longtemps du côté de New England, c'est une chose de ne pas forcément avoir de réussite comme on a pu voir sur certaines premières semaines de saison régulière cette année. Là, très clairement, on a l'impression que le groupe a un petit peu lâché. Forcément, Mac Jones en premier lieu, qui est un peu le symbole de tout ça. Mais oui, c'est quand même un petit peu problématique de se retrouver à encaisser un score aussi brut que 72-3 en une semaine à peine pour New England, quand tu es censé avoir une bonne défense. En soi, elle n'a pas été catastrophique. Mais quand tu as une attaque aussi abyssale que ce qu'on voit depuis maintenant 2 semaines.
On va commencer par l'attaque en effet. Raphaël, est-ce que les Patriots sont ringards offensivement?
Je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, ils sont sans doute un peu à côté de la plaque et de ce qui se fait actuellement. Alors bon, après, on pourrait dire qu'il y a quand même beaucoup de schémas un peu différents offensifs dans la ligue, donc il n'y a pas un modèle unique de succès, mais c'est vrai qu'on, à force de pas forcément miser sur les receveurs, d'aller chercher des profils un peu étranges, alors Greg en parlera sans doute mieux, mais des profils un peu étranges sur la ligne offensive, quand je dis un peu étrange, c'est que quand même ces derniers temps, enfin je pense notamment à la sélection de Cole Strange l'an dernier, alors on sait bien que les big boards, les réputations des joueurs, faut toujours s'en méfier, ce qu'on dit. Néanmoins, on a quand même vu que dans la ligue, il y avait beaucoup d'étonnement sur ce choix-là, à ce niveau-là. On sait que les Patriots, ça fait des années qu'ils sélectionnent des joueurs un peu suivant leurs critères à eux. Sauf que depuis pas mal de temps, ces critères-là, notamment en attaque, pour le coup, sont pas les bons. Sont pas les bons parce qu'il n'y a aucune réussite dans les choix offensifs à la draft. Donc, est-ce que c'est des critères ringards? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est des critères qui ne semblent pas adaptés à 2023, ou en tout cas qui ne fonctionne pas.
Voilà pourquoi je pose la question comme ça. Tu dis c'est pas adapté à 2023, et pourquoi je dis ringard volontairement de manière provocante, c'est parce que c'est une équipe qui a quand même l'air d'être construite comme si on était en 2003. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun joueur capable de faire des différences en attaque vraiment très explosives. Si je prends l'extrême inverse, c'est les Miami Dolphins avec leurs joueurs qui courent à 1000 à l'heure de partout. Le quarterback est une statue, alors qu'on sait que maintenant, je dis pas qu'il faut que tous les quarterbacks soient Lamar Jackson, mais il y a un minimum de mobilité. On voit un Joe Burrow par exemple, ou des joueurs comme ça. Alors c'est pas le bon exemple avec son mollet actuellement, mais je veux dire quand il est en bonne santé, évidemment. Tu le disais, les receveurs sont quand même pas très bons. La ligne, il y a non seulement des profils étranges, mais il y a aussi une question de coaching, je pense, depuis le départ de Dante Scarnecchia. On va y revenir.
Pour précision, vas-y. Si je dis pas de bêtises, c'est 3 coachs de ligne offensive en 3 ans.
Oui,
ce qui n'aide pas globalement à créer quelque chose non plus.
Et donc encore une fois, moi j'ai l'impression que c'est un peu toute la philosophie de Bill Belichick qui est en train de sombrer offensivement. Et aussi parce qu'il est le manager général de facto de cette équipe, donc il a aucune excuse. Il pourrait pas dire on m'a construit cet effectif-là. Il a tous les pouvoirs quasiment Bill Belichick à New England. Donc Grégory, moi la question elle est un peu là aussi pour l'attaque. C'est est-ce que c'est la fin d'une époque? Est-ce que comme il n'arrive pas à renouveler ce modèle-là, c'est la fin d'une époque?
Oui. Et alors, moi ce que je trouve très paradoxal, c'est que tu parlais en effet de cette capacité d'avoir des receveurs très explosifs qu'on a dans beaucoup d'équipes aujourd'hui, d'être capable vraiment d'étirer les défenses adverses, d'être capable notamment de jouer sur des zones intermédiaires, sur des yards après réception. C'est un peu New England quand même qui a lancé cette grande mode, notamment avec les Wes Welker, les Julian Edelman, etc., etc. C'est eux qui ont construit ce type de modèle-là. Et aujourd'hui, ce type de receveur, on ne l'a plus. On est parti dans une espèce de caricature avec beaucoup de receveurs assez grands. Alors ça change un petit peu aujourd'hui, par exemple, avec DeMario Douglas, qu'on voit un petit peu par intermittence, qui paradoxalement est très très peu utilisé dans cette attaque, mais globalement il y a beaucoup de profils qui sont assez similaires et qui ne donnent pas forcément grand chose. On est resté sur cette attaque justement à deux tight ends qui, comme tu le disais, pouvaient faire des ravages il y a encore 10 ou 15 ans du côté de New England, mais qui aujourd'hui paraissent sans doute à bout de souffle. Et puis juste avant de laisser la parole à Raph sur le sujet, sans doute moi ce qui m'embête un petit peu dans cette attaque là encore plus avec l'arrivée de Bill O'Brien, c'est que contrairement à beaucoup d'équipes, cette attaque de New England n'a pas d'identité. Je m'attendais à ce que ce soit une équipe qui justement assume son statut de martelé au sol avec, alors Stevenson n'est pas forcément à 100%, en tout cas j'ai pas cette perception, et on sait qu'Ezekiel Elliott est quand même plus proche de la fin que du début, mais je partais plus du principe que justement c'est une équipe qui allait essayer de marteler au sol. Et là, dans une période où Mac Jones n'est pas forcément au mieux, même s'il y a eu un pick six très rapidement pour New Orleans, on s'est vraiment acharné à vouloir vraiment lancer plus que de raison. Et c'est ça le souci, c'est que on a du mal à savoir quel visage concrètement offensivement on va avoir de New England d'une semaine sur l'autre.
Ouais, non, mais offensivement, effectivement, il y a cette question d'identité qui est perturbante. On ne sait pas très bien. Enfin, il y a des investissements. Je pense par exemple Mike Gesicki, on l'a fait venir, il touche pas loin de 8-9 millions par an. Pour quelle utilisation, on ne sait toujours pas.
Comme on avait surpayé Hunter Henry l'année
exactement,
d'avant.
Exactement. Tu mises quasiment rien sur la ligne offensive, sauf tu fais venir un tackle de 35 ans, ça donne pas grand chose. Tu laisses partir Jacoby Meyers pour donner la même chose à Juju Smith-Schuster, qui a une palette de jeux moins importante que Jacoby Meyers. Bon, voilà, il y a.
Juste, je me permets, on parlait des choix curieux sur la ligne. Il y a quelques années, ça a été souligné. Le choix Isaiah Wynn, par exemple, pour jouer tackle gauche. On a vu que ça a bien permis de développer le jeu au sol l'année où New England va chercher le Super Bowl en 2018, de mémoire. Mais derrière, on s'est vite rendu compte que c'était pas un joueur adapté pour jouer sur l'extérieur. Et ça, c'est aussi des décisions derrière que New England, en effet, doit assumer offensivement.
J'allais dire, j'ai l'impression qu'on en revient toujours aux décisions, en fait, plus qu'au coaching de Bill Belichick. C'est-à-dire que le nom de Bill O'Brien est passé, il y a quand même une incapacité totale à s'ouvrir à des nouvelles choses, rien qu'en termes de coaching. On a eu Matt Patricia l'an dernier, on a Bill O'Brien l'an dernier. Je dis une bêtise, hein, peut-être totalement, mais je sais pas, il y a un moment, Eric Bieniemy change de poste de coordinateur offensif, tu vois, c'est les Commanders qui le récupèrent. Pourquoi Belichick dit pas, ah, tiens, je vais m'ouvrir à un truc, tester Bieniemy, j'en sais rien. Mais
parce qu'on est dans une secte Belichick, peut-être.
Non, mais voilà, on revient tout le temps. On a fait revenir Joe Judge, on a fait revenir Patricia, on a fait revenir Bill O'Brien. Il a 71 ans, il faut le dire aussi. Je ne fais pas de l'anti-âge, etc. Mais au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune envie de s'ouvrir. Donc à partir de là, tu es condamné à mourir. Quoi.
C'est vrai, juste pour faire une petite parenthèse, c'est vrai que si tu prends l'exemple qu'on prend assez souvent de Pete Carroll, qui a pratiquement le même âge. On a vu que notamment offensivement, il n'a pas hésité à dépoussiérer le cahier de jeu en allant par exemple chercher un Shane Waudron qui était issu notamment de l'arbre Sean McVay, on va dire. Et on voit que ça a apporté ses fruits, notamment la saison dernière avec Geno Smith, même s'il y a une identité qui est plus sur le jeu au sol. On voit qu'on n'a pas hésité à dépoussiérer. Et ouais, peut-être que du côté New England, on a du mal à franchir ce pas côté Belichick.
Et c'est là où pour moi le problème est devenu structurel à New England, en fait. C'est qu'on n'est pas juste dans une question d'appel de jeu. On n'est pas juste là-dedans, on est vraiment dans un modèle qui part des prises de décision en interne jusqu'à ce qui on met sur le banc pour accompagner Belichick qui est problématique. Et c'est en ce sens, on l'a mis notamment dans les leçons de la semaine sur le site, c'est dans ce sens qu'on pense que peut-être là la solution ne peut venir in fine que de Robert Kraft, parce que Belichick semble englué dans un système dont il ne sort plus. Et puis en plus de ça, voilà, on l'a dit, des choix de free agency, de draft pas évident. Alors sur la draft, là où peut-être je tempérerai un peu, c'est que c'est vrai, ils payent finalement peut-être trop d'années d'excellence avec beaucoup de choix très haut à la draft sur les dernières années, qui n'ont pas permis d'avoir beaucoup de joueurs de talent premier. Ce que je veux dire par là, c'est quand tu regardes 2020, t'as pas de choix avant le 37e choix. 2019, c'est le 32e choix. Enfin. À quelque part, ça t'empêche aussi peut-être de prendre ce edge rusher numéro 1 de talent. Ça t'empêche de prendre, enfin
oui,
voilà, peut-être que sur des postes clés,
ouais.
ils ont un peu trop payé ça. Mais bon, en tout cas, les choix sont mauvais, les décisions sont pas bonnes. Et pour moi, là,
c'est ça, parce que j'allais dire pourquoi les Ravens, les Steelers, ce genre d'équipe arrivent malgré tout sans sélectionner extrêmement haut à chaque fois à renouveler un minimum l'effectif. Mais j'entends parfaitement ce que tu dis, hein, mais c'est vrai qu'il y a eu des choix, notamment sur la ligne offensive, et peut-être le fait de vouloir blinder justement une défense qui était déjà excellente et très bien coachée. Je pense qu'on peut pas dire jusque-là que les défenses de Belichick sont mauvaises. C'est le grand paradoxe de cette histoire, c'est que justement, en sachant que Belichick est capable de driver justement une défense correctement, je pense qu'on aurait dû prioriser justement tous ses premiers choix sur l'attaque plutôt que d'essayer de blinder la défense. Alors, c'est sûr qu'un Christian Gonzalez, de ce qu'on a vu depuis le début de la saison, c'est pas une mauvaise idée en premier tour de la dernière draft.
Oui, c'était bien.
Mais voilà, peut-être qu'à un moment donné, c'est bien de considérer aussi un peu plus massivement l'attaque une fois que Tom Brady est parti.
Après, pour la défense, sur ce match-là notamment, ils ont l'excuse des blessures de Mathieu Judon et Christian Gonzalez. Ce qui est problématique, évidemment, c'est l'attaque. Après, c'est ce qu'on disait pour revenir à ce match. Mac Jones, il lance deux interceptions, mais c'est difficile dans les conditions où la ligne maintenant n'est plus bonne, où le jeu offensif n'avance plus, où les receveurs ne sont pas bons. Et je voulais aussi peut-être vous faire réagir là-dessus, mais est-ce que le symbole peut-être de la chute, entre guillemets, de Bill Belichick, c'est pas aussi que même les équipes spéciales ne sont plus bonnes à New England, ce qui était quand même le cliché ultime de Bill Belichick, quoi. On veut que les équipes spéciales soient géniales, j'aime qu'on me pose des questions sur le troisième punter en conférence de presse parce que je peux faire une dissertation sur les couvertures, etc. Les équipes spéciales des Patriots ne sont plus bonnes. C'est quand même aussi un symbole, quoi, de ça.
Futur Hall of Famer Matthew Slater n'est pas éternel non plus, c'est sûr que ça va mettre en avant, mais je rejoins ce que tu dis là.
Bon, en tout cas, encore une fois, sur ce match, ça donne donc 34-0, une attaque qui ne donne rien. Juste pour finir sur Mac Jones, je pense qu'il est aussi à l'abri. On a vu que dans les conditions catastrophiques autour de lui, Bailey Zappi a pas fait beaucoup mieux. Il est rentré en fin de match, il fait un 3 sur 9 pour 22 yards. Bon, donc il y a même pas de polémique au poste de quarterback, en fait, tellement tout autour ne va pas.
Mais c'est ça, en fait, qui est très paradoxal. Il faut quand même se rappeler un petit peu le processus d'intersaison. À un moment donné, il y avait qu'un seul quarterback sur la dans la hiérarchie du roster. Donc concrètement, c'est là à un moment donné où on peut se poser des questions, où on peut se dire OK, bon, Bill Belichick, d'accord, il se dit l'année dernière, j'ai fait une bêtise. Déjà celle de nommer Matt Patricia en tant que coordinateur offensif à l'époque, on s'était un peu gratté la tête en se disant bon, il devient un petit peu gâteux le père Bill. Et là cette année, ils font ça en se disant bah potentiellement il y a Bill O'Brien, mais c'est quoi ton assurance entre guillemets si ça se passe pas bien avec Mac Jones, bah c'est un joueur que tu coupes, que finalement tu reprends, que tu vas tester ou tu vas dire bon finalement c'est pas pire pas mieux, enfin voilà. C'est quand même des tâtonnements que je trouve assez dingues sur un poste qui s'est montré extrêmement décisif et crucial ces 20 dernières années du côté de Foxborough quoi.
Mais c'est peut-être un débat pour un autre jour, mais ça pose aussi la question de savoir de ce que Tom Brady a masqué quand même.
Oui.
À un certain moment, avec un, son talent, avec deux, ses contrats qui permettaient aussi d'avoir un peu d'argent disponible pour faire certaines choses. Parce que bon, Tom Brady, il fait quand même deux Super Bowls en trois ans en partant chez les Buccaneers.
Après caché, je sais pas, je dirais bonifié.
Oui.
Voilà, là manifestement aujourd'hui ça devient plus compliqué et c'est là où malheureusement il n'y a plus rien pour cacher la misère.
Ah bah là, et puis on le disait, Dante Scarnecchia, visiblement le travail sur la ligne offensive, enfin il y a beaucoup de choses qui sont quand même parties un petit peu
parties de travers. Parce qu'on parlait de quarterback statut, Brady n'était pas réputé pour sa grande mobilité, sa capacité à scrambler, même s'il savait bouger dans la poche. Voilà, c'est juste que peut-être Mac Jones aussi garde beaucoup plus le ballon que pouvait le faire Brady.
Après, sur les quarterbacks, je lance le what if, hein, mais... En 2018, plutôt que de prendre Sonny Mitchell avec le 31e choix, tu prenais Lamar Jackson et tu rentrais dans le 21e siècle. Hein.
Oui, mais du coup, ça dépend comment tu voulais jouer. Parce que si tu le faisais jouer en le faisant reculer dans la poche pour lancer à Kendrick Bourne et Devante Parker.
Oui, mais Belichick l'avait pris, il aurait sans doute pas été dans cet esprit-là, tu vois. C'est qu'il était prêt à réfléchir à nouveau, mais à autre chose. Bon, bref,
C'est vrai. Bon, en tout cas, c'est un énorme match d'une très bonne défense des Saints. On va parler un petit peu d'eux quand même. Derek Carr signe un match vraiment solide, on va dire. Il a 18 sur 26, 183 yards de touchdown. On sent qu'il n'est pas tout à fait remis de son épaule. Donc, il a fait les minima avec Alvin Kamara qui l'a aidé en marquant un touchdown au sol. Ça prend forme quand même du côté de New Orleans parce que, mine de rien, il y a un zéro pour il y a une bulle pour les Patriots. Mais c'est parce qu'il y a une très bonne défense. Et avec cette attaque, quand ils sont propres, ça fait quand même une équipe très très solide, Grégory.
Oui, bah, j'ai envie de dire bonne défense depuis le début de la saison. Je n'ai pas souvenir d'un match où il soit vraiment passé à côté, parce que même le match par exemple à Green Bay, c'est un match où s'il gagne, il n'y a clairement pas scandale vu le scénario.
Ils n'ont pris qu'une seule fois plus de 20 points.
Oui, c'est ça. Donc très honnêtement, c'est une défense extrêmement solide. Malgré le changement de coordinateur défensif pendant l'intersaison, c'est dans la continuité de ce qui a été montré en 2022. Après, voilà, une fois qu'on arrivera aussi offensivement, je pense à avoir toutes les pièces en même temps, à pas changer systématiquement quarterback, à pas avoir des running également qui sont un jour présents, un jour absents. Carmichael, le coordinateur offensif, sur cette semaine, c'est un peu moins tiré des balles dans le pied par rapport à la semaine dernière. Faut trouver de la constance offensivement. C'est important du côté de cette équipe des Saints. On sent qu'ils ont encore ce besoin de trouver un certain équilibre de ce côté-là du ballon. Mais voilà, fort heureusement pour eux, la défense fait le boulot pour permettre justement ce temps d'adaptation supplémentaire.
Ouais, non, Raphaël, non, mais Grégory a globalement tout dit. Hein, c'est notamment la capacité à être meilleur en attaque, plus régulier, qui va permettre à cette équipe de passer un palier. La défense, on parle de cette année, mais déjà l'an dernier, elle était globalement solide en encaissant très peu de points. Hein, donc, c'est pas la surprise de l'année de les voir à ce niveau-là pour le coup. Voilà, la défense, comment tu mets un peu plus Camara en position de mieux courir. Bon, alors la ligne offensive est un peu en difficulté, mais bon. Pour moi, les clés du succès sont entre les mains de Pete Carmichael. Alors, est-ce que c'est rassurant ou pas, chacun se fera son avis, mais clairement, c'est là où est l'axe d'amélioration.
On va rester avec Raphaël et on va enchaîner avec le Bills-Jaguars. 20 pour les Bills, 25 pour les Jaguars. C'était à Londres avec Raphaël en tribune. On attendait les Bills souverains après leur gros succès contre les Dolphins. Eh bien, pas du tout. Un non-match ou presque pour eux. Raphaël, qu'est-ce qui s'est passé pour Josh Allen et son équipe ?
Qu'est-ce qui s'est passé? Pas mal de petites erreurs d'exécution, de notamment et une attaque aérienne qui a vraiment mis beaucoup de temps à trouver des solutions. Faut attendre à peu près le quatrième quart-temps pour que enfin Buffalo arrive à enchaîner à la passe. Sinon, avant ça, c'était très compliqué. Ils n'ont pas pu compter sur leur jeu au sol par rapport aux dernières semaines où ça allait un peu mieux au sol. Là, c'était négatif. Hein. Le jeu au sol, faut pas chercher plus loin.
2,1 yards par course, 14 courses seulement.
Voilà, globalement. Donc, c'est principalement ça. Une attaque qui a mis trop de temps à se lancer. Certains ont évoqué peut-être le décalage horaire, le...
Mais tu fais bien
le
parce
fait
que
qu'ils soient arrivés tardifs, tout ça, bon, je sais pas, mais...
Non, mais alors, j'ai vu que ça a été pas mal évoqué et que notamment les joueurs en ont parlé en conférence de presse. Stephon Diggs a dit que Josh Allen était endormi et ils sont arrivés que le jeudi ou le vendredi, si j'ai bien
c'est
compris.
Ça.
Moi, au bout d'un moment, qu'on me dise pas, alors je crois que c'est nos collègues de Randy NFL dans un autre podcast, j'ai entendu, qui disaient... les équipes NFL cherchent toujours comment faire avec Londres. Non mais arrêtez, on cherche pas comment faire. Faut arriver au début de la semaine, on l'a compris depuis le temps, c'est juste que vous avez la flemme de venir et de vexer vos joueurs. Mais en fait, t'arrives pas deux jours avant un match avec le jet lag, quoi.
Oui,
ça me paraît évident.
Oui, alors, voyage pas en... Enfin bon, bref.
Bah je sais pas, après,
non,
après j'imagine...
Non, je voyage pas en écho, mais tu vois... Bah,
déjà,
corps,
et puis j'imagine qu'ils doivent voler
quoi.
De nuit dans des circonstances qui sont pas non plus cataclysmiques. C'est quoi, c'est 8 heures de trajet, je pense, entre Buffalo et Londres.
Ouais.
À peine.
Je pense, ouais.
Bon, ça va quoi, je veux bien qu'on nous fasse le coup de ils sont mal entraînés. À partir du moment où tu sais que l'équipe que tu affrontes est depuis une dizaine de jours à Londres sera plus calée que toi sur l'horaire local, je te rejoins Alain, à un moment donné tu t'anticipes et tu te décides à partir dès le mardi ou le mercredi pour avoir le temps de t'entraîner et de faire en sorte que tout le monde soit bien focus quoi. Après pour moi le problème c'est pas les joueurs qui étaient mal réveillés, c'est le coaching. Moi je suis désolé, 14 courses, tu l'as dit Alain. Une semaine après avoir marché sur la tête des Dolphins, tu t'abandonnes à ce point-là ton jeu au sol dans un match où, en plus, ça je pense qu'on va en parler derrière, mais je vais me permettre d'enchaîner, ta défense se fait déplumer au fur et à mesure des minutes en termes de blessures, et au lieu d'économiser ta défense et les remplaçants qui du coup la composent, au lieu d'essayer de faire un minimum de ball control en te disant « bah on va pas paniquer, on va revenir petit à petit », le plus gros écart c'est quoi, c'est 11-0 pour les Jaguars je pense de mémoire, et on s'est évertué à vouloir absolument lancer des longs ballons. Alors après il y a des actions clutch hein. Je pense notamment à l'interception de Darius Williams qui est extrêmement décisive pour Jacksonville, mais il y a toujours ce truc à un moment donné on est parti sur l'idée de la semaine dernière Josh Allen, Stephon Diggs ça a envoyé du rêve, là on va en mettre plein la tronche de Jacksonville. Non, il aurait fallu rester sur les fondamentaux et au lieu de ça on a exposé Josh Allen au pass rush adverse, qui s'en est donné à cœur joie, qui a mis vraiment au supplice la O-line. Et à mon sens, c'est vraiment le coaching qui n'a pas été bon là-dessus et qui, pour moi, n'a pas été bien réveillé.
Ils ont eu le ballon que 22 minutes, en effet. Et tu l'as dit, Grégory, blessure de Matt Milano, qui va être absent un très long moment, peut-être même toute la saison. Von Miller n'a pas terminé le match. Ils avaient déjà perdu Tre'Davious White. Raphaël, est-ce que c'est pas ça aussi, finalement, plus inquiétant que la défaite? C'est cette défense-là qui est quand même en train d'enchaîner les coups durs du côté de Buffalo.
Si, si, forcément, pour la suite, c'est compliqué. Hein. Il a fallu vraiment un énorme match de Epenesa en défense pour essayer de garder un peu le navire à flot. Et pour continuer à mettre de la pression sur Trevor Lawrence, mais c'est forcément inquiétant. Alors va falloir attendre un peu plus de détails, notamment pour Von Miller, hein, parce que l'an dernier notamment il y avait eu un avant et un après blessure Von Miller pour le pass rush des Bills. On va voir après la capacité à garder le ballon. J'entends ce que dit Greg, et c'est vrai que quand tu tentes que 10 courses, parce qu'on pourrait même 10 courses, sachant que sur les 14 il y en a 4 pour Josh Allen, donc on pourrait même réduire à 10. Je suis d'accord, faut insister un peu plus à la course. On a quand même vite senti que ça allait être compliqué de passer à ce niveau-là, et il y a aussi eu le problème qu'en fait Jacksonville a réussi à tenir ce ballon, donc c'est pas que Buffalo qui le perd vite, il y a aussi une capacité de Jacksonville à le tenir de manière efficace. Disons que c'est aussi un peu ça à mettre en balance. Jacksonville ne rendait pas le ballon à chaque fois au bout d'une minute, avec Buffalo qui à son tour le rendait au bout d'une minute. On a eu des longs drives de Jacksonville aussi par moment quoi.
Ah bah oui, Jacksonville a couru 40 fois pour quasiment 200 yards. Trevor Lawrence a été plutôt pas mal. Raphaël, très beau match offensivement quand même. 474 yards, ça progresse du côté de Jacksonville.
C'était pas mal, assurément, notamment au sol. Hein, ils ont une première série où c'est très compliqué. De mémoire, ils font même un third and out directement. Et derrière, effectivement, ils ont décidé de redonner de la confiance et du ballon et de nourrir Travis Etienne avec succès. On a vu le coureur de Jacksonville réussir plusieurs grosses courses, obtenir des first downs, notamment sur des portées de 10, 11 yards. Et un Calvin Ridley utilisé de manière intelligente. Je trouve aussi, depuis deux semaines, ils se remettent à utiliser beaucoup plus Christian Kirk dans le jeu aérien. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que l'an dernier, il avait quand même surpris tout le monde en étant le meilleur receveur de cette équipe. Et il l'avait bien fait. Donc, c'est bien. Ouais, non, c'est les appels de jeu sont meilleurs, clairement.
Bon, très bien. On va enchaîner, juste pour rappeler les faits quand même. Le match s'est emballé en fin de partie. 4 touchdowns en 4 possessions, un punt avant un punt et un dernier ballon pour Buffalo qui avait donc le ballon à 22 secondes de la fin. Mmh. Mais Stephon Diggs a fait une latérale un petit peu baroque.
Oui, c'était bien baroque, oui, clairement.
C'était un peu n'importe quoi, recouvert par Trevon Walker pour la victoire. Vikings 20, Chiefs 27, quatrième fois de la saison que les Vikings perdent une possession. Ça a complètement tourné par rapport à l'an dernier. Ils ont eu deux fois le ballon pour égaliser, ils n'ont pas réussi. J'ai envie de commencer quand même par le coup dur. Alors, est-ce que la différence à la fin, d'ailleurs, on va lier les deux. Est-ce que la différence à la fin du match, c'est aussi parce que Justin Jefferson est absent, il est touché aux ischios, il sera absent pour au moins 4 semaines, et on a vite vu que ça les laisse quand même avec beaucoup moins de solutions, Grégory.
C'est une possibilité, en effet. Après, on a vu que cette attaque de Minnesota était quand même capable de faire bouger les chaînes. Ils leur ont posé des problèmes, en effet, jusqu'au bout, quoi. Comme tu le disais. Il y a cette action un peu polémique sur la passe interférence ou pas passe interférence de la part de Jarius Sneed également, qui aurait peut-être pu permettre à Minnesota de mettre un peu plus les Chiefs sur le reculoir. Donc, en effet, forcément, je ne vais pas te dire que l'absence de Justin Jefferson n'a pas handicapé un minimum, n'a pas en tout cas amené Minnesota à exploiter d'autres pistes un peu moins fiables habituellement. Mais malheureusement, j'ai presque envie de dire, c'est même pas sur la fin de match, encore une fois, que Minnesota perd ce match. C'est toujours la même problématique cette saison. C'est là où ils excellaient l'année dernière et où cette année, bah, c'est catastrophique, c'est les turnovers, quoi. C'est la pire équipe dans ce domaine-là et semaine après semaine. Alors, le calendrier, en plus, c'est pas tendre pour eux, hein, parce qu'encore une fois, voilà, sur 5 matchs, ils ont joué les Chiefs, ils ont joué les Eagles. Enfin, ils ont pas eu forcément un calendrier évident depuis le début, ça j'entends. Mais on peut pas commettre autant d'erreurs et se tirer des balles dans le pied, parce qu'il y a pas que des belles actions défensives, c'est aussi pas mal de sautes de concentration et de ballons mal protégés. On ne peut pas autant rendre le ballon à des adversaires justement aussi redoutables que ceux qu'ils ont affrontés jusque-là.
Raphaël, les turnovers surtout, alors la différence ?
Oui, bah encore une fois, hein, c'est dans l'effet de jeu, dans l'effet du match, c'est ce qui leur coûte beaucoup, cette capacité à perdre la balle ou incapacité à la protéger. Et tu dis, forcément, je pense que l'absence de Jefferson pose un peu souci en fin de match, mais malgré tout, l'attaque de Minnesota et Kirk Cousins se débrouille pas mal dans ce match face au blitz incessant des Chiefs, et la copie, elle est pas ridicule, hein. Il est blitzé, ouais, sur quasiment 50% des snaps, et pourtant il se fait peu, enfin il trouve des touchdowns, il se débarrasse vite de la balle, donc. Mais voilà, enfin, on a toujours dit,
ballon sur ce match, en effet.
C'est aussi le foot américain, c'est aussi un jeu de détails, et quand tu perds trop de ballons, tu finis par être bloqué. Enfin, c'est...
Oui, ils n'en perdent qu'un, hein, factuellement, sur ce match, mais évidemment, il fait mal. Et encore une fois, face à une équipe comme les Chiefs, c'est dommage, parce que la défense des Vikings progresse un petit peu, hein, sous Brian Flores, petit à petit. Ça pourrait être bien pire que d'en prendre 27 contre les Chiefs. Du côté des Chiefs, est-ce qu'on a un peu de mal offensivement quand même? Ça semble moins explosif, terrifiant que par le passé. Alors, il y a cette irrégularité du jeu au sol, mais ça, c'est un classique d'Andy Reid. C'est surtout que derrière Travis Kelce, on se demande quand même qui est là pour être le receveur. Je vois Grégory qui hausse les épaules.
Bah, c'est l'adaptation qui a été choisie par le general manager Brett Veach et Andy Reid pour justement compenser le départ de Tyreek Hill. C'est que oui, t'as un numéro 1 qui malheureusement doit composer avec pas mal de petits soucis physiques depuis le début de la saison. Et en effet, derrière, alors l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont un quarterback qui est capable de distribuer à peu près à tout le monde. Donc sur un jour, il y en a potentiellement un qui peut prendre feu. Là, on va dire que il y a peut-être Rashee Rice qui s'est un peu mis en avant et Justin Watson notamment avec ses deux catchs ultra spectaculaires. Mais c'est vrai qu'en soi, malheureusement, va falloir s'attendre de toute façon à avoir un cahier de jeu très épuré, très écarté, on va dire, pour justement brouiller les pistes des défenseurs et ne pas avoir de menaces vraiment attitrées. Mais après, forcément, ça a d'autres problématiques. C'est que voilà, t'as pas de vraie valeur sûre dans cette équipe, en effet, sortie du tight end titulaire.
On rigole souvent de si t'as deux quarterbacks, si t'as pas de quarterback, mais là ils ont poussé le concept sur les receveurs, c'est si t'as 10 receveurs, t'as pas de receveurs, parce qu'il y a Travis Kelce qui a 10 réceptions, derrière Justin Watson à 2, Rashee Rice à 4, Justin Royce à 2, Kadarius Toney à 5, Jerick McKinnon, bon c'est un coureur, Marquez Valdes-Scantling à 1, Sky Moore à 2, c'est un peu le même joueur de partout,
oui,
mais on sait pas.
Après il y a beaucoup de projets hein, dans cette équipe là, je parlais de Rice, on sait Sky Moore c'est aussi un projet, ils ont essayé de relancer Kadarius Toney. C'est des profils qui étaient très attrayants en sortie d'université et dont je pense Kansas City espère tirer un peu plus, mais manifestement pour l'instant la connexion a du mal à se faire de manière très régulière avec Patrick Mahomes.
Est-ce qu'ils sont en danger, Raphaël, en fonctionnant comme ça?
Danger, je sais pas. Ils sont à 4 victoires, une défaite.
Oui,
en termes de scoring, ils sont encore top 5 de la ligue. Tu vois, il y a pas péril en la demeure. Parce que pour le moment, ils arrivent à réussir les actions clés. C'est clair, au cours d'un match, ça manque de fluidité, ça manque de synchronisation avec certaines de ses cibles. Mais par contre, bizarrement, je sais pas en fait, mais quand il faut aller faire l'action décisive, ils finissent par trouver la solution pour marquer suffisamment de points. Donc, c'est le modèle, comme l'a dit Greg, c'est le modèle choisi. Peut-être qu'ils mourront avec cette idée-là, mais de toute façon, c'était le choix en ne prolongeant pas Tyreek Hill en l'envoyant ailleurs. Hein.
On passe aux Cardinals 20, Bengals 34. Ça va beaucoup mieux pour Joe Burrow et les Bengals. Enfin, une belle prestation offensive pour eux. Et enfin, Joe Burrow avait l'air quand même beaucoup moins limité. 36 sur 46, 317 yards, 3 touchdowns, 1 interception. Jamar Chase a pris 15 ballons pour 192 yards et 3 touchdowns. Est-ce qu'on a retrouvé les Bengals, Raphaël?
On s'en rapproche dans l'idée, en tout cas, un peu plus de jeu explosif que tout ce début de saison et que ces dernières semaines. Donc en ce sens-là, c'est un peu mieux. On a aussi vu quand même une. J'ai trouvé que la défense de Cincinnati était bien revenue en seconde mi-temps et s'était ajustée de manière un peu plus intéressante, à l'image de ce que finalement les Bengals nous avaient habitués ces dernières saisons avec des ajustements défensifs assez intelligents en deuxième mi-temps et qui souvent leur permettaient de bloquer un peu de serrer le match. Voilà, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. On va espérer que ce soit plus qu'une plus qu'une fois et que ça y est, la machine est lancée. Mais oui, c'était mieux, clairement.
C'est jeu explosif, jeu au sol, bof, et défense qui sort des trucs décisifs en deuxième mi-temps. Greg, on y est à peu près.
Ouais, je suis un poil plus mesuré sur Joe Burrow. Les stats sont ce qu'elles sont et vu à quel point il a été clutch, notamment pour aller se connecter avec Jamar Chase dans l'embute, j'aurais du mal à dire que c'est pas un bon match. Ça m'inquiète un petit peu quand même cette pression, je trouve, qui reste notable. Il y a 3 sacs au total, mais je trouve qu'il y a quand même une certaine pression générée par la défense d'Arizona, où Joe Burrow plus d'une fois a dû se dépatouiller un petit peu justement pour trouver des solutions. Pour un joueur qui a l'air d'aller un petit peu mieux physiquement, mais dont on se doute encore qu'il n'est pas forcément à 100% aujourd'hui, je ferai quand même attention à ce petit point-là. Voilà, je vais pas faire un jour à Arizona, ils ont déjà réussi un upset cette saison en battant notamment Dallas, mais ça passe parce que c'est Arizona qui en effet est un peu en roue libre, hein, et ça s'est vu à un moment donné, je crois qu'ils peuvent recoller avec un field goal, et ils tentent la quatrième en bonne position, il me semble, dans le terrain de Cincinnati, je sais pas si toutes les équipes l'auraient faite, mais voilà, juste un petit élément à surveiller. Après, ça fait pas de mal de voir cette collaboration Burrow-Chase refonctionner de nouveau, surtout après les propos de Jamar Chase en conférence de presse la semaine dernière.
Action décisive en défense pour les Bengals, parce qu'en face, les Cardinals se sont plutôt bien accrochés. Il y avait que 4 points d'écart au début de la dernière période. Chase a marqué pour creuser l'écart. La défense a fermé la porte en provoquant un fumble, une interception et un échec sur 4e tentative. Ils sont toujours quand même vaillants, hein, les Cardinals. Bon, alors les stats sont pas ronflantes. Il y a 2 interceptions pour Josh Dobbs, etc. Donc, l'essentiel n'est pas statistique, mais on va dire encore dans l'esprit. On continue d'accumuler les victoires morales, Raphaël.
Ouais, c'est ça, victoire morale. Ils ont vraiment eu un après dans ce match, j'ai trouvé au moment de la blessure de James Conner, qui est un peu leur moteur offensif malgré tout. Ouais. Et c'est vrai que quand il est sorti, c'est devenu un peu plus compliqué. pour bouger le ballon, pour bouger le ballon du côté des Cardinals, mais globalement, comme tu dis, c'est à peu près, enfin c'est mieux que ce qu'on attendait d'eux. Grégory l'a dit, je pense que Gannon, il se dit, bon, ah, vas-y, je tente la quatrième, ça passe pas, c'est pas très grave. De toute façon, on n'attend pas à ce que je gagne beaucoup de matchs et au pire, nos choix de draft seront meilleurs. Donc, bon, voilà, ils se font plaisir, ils testent un peu tout le monde. Écoute, victoire morale, oui, oui.
Eh bien, Grégory, quelque chose à ajouter sur ces.
Non, j'étais globalement d'accord avec l'analyse de Raph.
Eh bien, très bien. Petit jingle, petite pause et la suite.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
Rams 14, Eagles 23, c'était un choc entre les deux derniers vainqueurs de la conférence NFC. Il a tourné à l'avantage des Eagles. Il y avait 17-14 pour Philadelphie à la pause, c'était plutôt serré. Ensuite, l'attaque des Rams a été complètement bloquée. On est sur de la démonstration physique costaud, Raphaël, de Philadelphie. C'est quand même costaud dans les tranchées, c'est costaud partout en fait, j'ai l'impression.
Ouais, c'est costaud globalement partout et honnêtement, je sais que c'est un jeu qui fait débat, mais je trouve que ce qui l'incarne le plus, c'est leur fameuse action, ce fameux jeu qu'ils ont quand ils sont en 4 et 1 ou à peu de yards et qu'ils donnent la balle à Hurts et qu'il est poussé par ses coéquipiers et que ça passe tout droit et qu'ils sont les seuls à peu près la réussir en NFL à l'heure actuelle. Et je trouve que ça incarne bien ce côté... football dur qu'ils ont, en attaque, en défense, pareil, ils ont tout un tas de joueurs sur la ligne défensive à l'image du rookie Jalen Carter qui est la bonne surprise pour le moment de la saison. On s'attendait peut-être pas à ce qu'il soit aussi bon que ça directement. Bon, ils gagnent encore une fois la bataille des tranchées et c'est leur style et c'est leur football et ça te rentre dedans et peu d'équipes sont capables de résister à ça, ouais.
Deux sacs en effet pour Jalen Carter, Grégory, c'est pas une surprise je suppose vu le talent universitaire, mais en effet il symbolise bien cette domination des Eagles en début de saison.
Oui, en tout cas c'est toujours pareil avec les Eagles depuis le début de la campagne, c'est que certains vont peut-être trouver à redire, vont dire oui c'est pas des victoires toujours très étincelantes, là en effet on a été mené face aux Rams, on a gagné d'une courte tête chez les Patriots, on a gagné en prolongation contre les Commanders. Oui, mais ça reste la NFL, ça reste compétitif. Et comme l'a dit Raph, quand il faut aller au charbon, et notamment sur le combat des lignes cher à Howie Roseman, Philadelphie répond présent. Et Philadelphie est toujours l'une des rares équipes à l'issue des 5 premières journées à être invaincue. Donc ça fait plein de confiance. En attaque, ça laisse le temps à Jalen Hurts de trouver ses cibles, avec notamment cette collaboration XXL avec AJ Brown ce week-end. Et puis défensivement, ouais, ça a mangé, ça a rongé à petit feu, on va dire, cette attaque des Rams, notamment en deuxième mi-temps.
39 courses, 38 passes hein, pour Philadelphie. C'est vraiment méthodique. AJ Brown à 127 yards, Dallas Goedert à 117. Enfin, c'est tellement blindé de partout, c'est assez impressionnant. Et tu l'as dit, ils ont bien mangé les Rams. Ça avait bien commencé. Cooper Kupp était de retour. Ça cohabitait bien avec Puka Nacua quand même, mine de rien. 118 yards pour Kupp, 71 pour Nacua, 8 réceptions pour Kupp, 7 pour son collègue. C'était plutôt quand même pas mal. Il reste vivant, Raphaël, c'est Rams, parce que là ils étaient face à une très grosse équipe, mais il reste intéressant finalement cette année.
Oui, il reste intéressant, comme tu l'as dit. On se demandait un peu comment les Rams allaient utiliser Nacua, qui avait un rôle à la Cup hein, en l'absence de Cooper Kupp, et est-ce qu'ils allaient réussir à le trouver et ne pas tout mettre sur Cooper Kupp. Il semble avoir trouvé une bonne synergie pour le moment. faut voir sur la durée, parce que là ils commencent très bien à la mi-temps et puis en deuxième mi-temps les deux receveurs se font 6 réceptions à eux deux, enfin voilà, ils ont été complètement éteints par la suite. Donc à voir si physiquement Cooper Kupp il est pas encore un peu en dedans, j'ai envie de dire, et qu'il a peut-être pas 60 minutes dans alors il est pas 60 minutes sur le terrain, mais vous voyez l'idée, et qu'il a peut-être pas 60 minutes dans les jambes. À voir, mais comme tu dis, c'est pas inintéressant, un peu limité quand même pour aller loin cette saison, faire quelque chose, mais mieux que ce.
Non, mais ils seront, voilà, ils seront pas aussi loin que ce qu'on pensait, quoi. C'est surtout ça. Lions 42, Panthers 24. Cette année, les Lions gagnent les matchs dont ils sont favoris et avec la manière. Pour une fois, on va commencer par leur défense. 2 interceptions, 1 fumble récupéré, 1 leader avec Aidan Hutchinson, auteur de l'interception et d'un sac. C'est quand même aussi l'info de ces dernières semaines, Grégory. La défense élève son niveau de jeu cette année.
Oui, bah, toute l'équipe a l'air d'être à l'unisson, et ça s'était vu notamment dès la première semaine à Kansas City, avec notamment ce pick six de Brian Branch qui avait eu une incidence sur la suite de la rencontre. On sent que le groupe globalement est bien emmené par Aaron Glenn, Aidan Hutchinson, qui avait eu peut-être quelques petites périodes de moins bien pour sa campagne rookie, a l'air de vraiment assumer pleinement son rôle de leader en début de campagne 2023. Donc voilà, mais c'est vrai que ce qui est encore plus fou dans cette équipe de Détroit, c'est que c'est une équipe globalement homogène. On n'a pas l'impression, justement, hormis Hutchinson, qu'il y a forcément une ou deux têtes qui dépassent en plus. C'est globalement très cohérent collectivement. Bon, là, en plus, ils tombent face aux Panthers, qui vont en termes de ligne offensive. C'est pas ce qui se fait de mieux dans la Ligue cette année, même s'il y a bien, bien pire, notamment en termes de sacs concédés. Mais je te rejoins totalement. Voilà, c'est sûr que forcément, on est beaucoup sur le côté strass et paillettes depuis l'année dernière à Détroit, avec notamment le rouleau compresseur offensif. Mais défensivement, ça va être une équipe à surveiller tout au long de cette saison, les Lions.
Raphaël, plus impressionné par cette défense que par l'attaque, ou bon,
non,
l'attaque reste très costaud,
alors,
mais
pas plus impressionné par cette défense que par l'attaque, mais effectivement, elle est en progrès, vous l'avez dit, hein, illustré, incarné par Hutchinson. Mine de rien, il manquait quelques joueurs aussi à cette défense, hein, et c'est pas inintéressant de voir que malgré ses absences, elle progresse. Après, voilà, ce qu'on attend maintenant de la défense de Détroit, c'est de nous convaincre face à une attaque plus importante, plus élevée, meilleure que celle de Carolina. Mais la dynamique est bonne, et en tout cas, pour le moment, cette défense fait bien contre les moins forts, et ce que toutes les équipes NFL font pas, donc c'est ultra positif.
Oui, avec la manière, parce qu'on se rappelle qu'à Green Bay, la semaine dernière, en plus c'était en prime time de mémoire, c'était le jeudi, ils ont laissé très très peu d'espoir aux Packers au Lambeau Field, et là, ouais, Carolina, ça a été réglé relativement rapidement, quoi.
Et l'attaque, en effet, est peut-être aussi impressionnante parce qu'elle a vécu sans Amon-Ra St. Brown et Jahmyr Gibbs, surtout St. Brown quand même, qui est très impliqué. Et pourtant, Jared Goff a distribué 20 sur 38, 236 yards, 3 touchdowns, aucune interception. Il y a 159 yards au sol, ils sont équilibrés avec 30 courses pour 28 passes. Le rookie Sam Laporta a marqué 2 touchdowns à la réception. Josh Reynolds, ancien Rams, ancien collègue déjà de Jared Goff, marque aussi un touchdown. Donc ça distribue. Bryce Young, de l'autre côté, 25 sur 41, 247 yards, 3 touchdowns, 2 interceptions. C'est difficile pour Bryce Young pour l'instant depuis ce début de saison. Je vois, Raphaël, que ça grimace.
Ouais, non, mais c'est difficile, c'est un rookie, voilà, c'est compliqué. Disons que ce qui est gênant, c'est que ses bas sont vraiment très bas, je trouve, personnellement. L'interception qu'il lance sur Hutchinson, il doit jamais la lancer. Pareil, sa deuxième interception, c'est une lecture un peu catastrophique. Il voit pas le cornerback en face qui lâche la couverture pour... Enfin, bon, c'est vraiment des jeux de total de rookie, mais de mauvais rookie, j'ai envie de dire. C'est un peu ça qui me gêne. Après, voilà, il reste un première année. On va lui laisser le temps de voir ce qu'il vaut. Mais c'est vrai que les bas, moi, m'inquiètent un petit peu.
Oui, l'entourage n'est pas foufou non plus. Hein.
Non.
Faudra parler de Miles Sanders, qui manifestement a beaucoup surfé sur la bonne attaque de Philadelphie l'année dernière, parce que cette année, c'est plus du tout le même visage. Et j'en passe une petite au passage, mais voilà, je suis fasciné par les équipes qui attendent à peine 5 matchs de saison régulière pour se dire « Ah, on n'a pas pris de receveur numéro 1 !» Ah, ça, c'est embêtant pour la suite de la campagne. Donc voilà, bah, forcément, ça se paye quand
Chicago
un quarterback...
pour avoir qui, Bryce Young.
Comment ?
Ils l'ont envoyé à Chicago pour avoir Bryce Young.
Oui, enfin bon, t'aurais pu essayer de chercher peut-être un profil un peu plus séduisant. Enfin, j'ai rien contre Adam Thielen, en plus, il fait plus de 100 yards
et un
touchdown sur ce match-là.
Âge, hein.
Mais voilà, on savait que c'était pas un receveur numéro 1 attitré sur le papier. Et t'as mis pour le reste du groupe, t'as des joueurs qui sont souvent blessés ou une classe biberon un petit peu pour l'entourer. Si tu rajoutes en plus la ligne offensive, voilà. je rejoins Raph, il y a des erreurs qui doivent pas être faites, mais c'est toujours la même chose, c'est forcément accentué si autour le quarterback est pas forcément en confiance pour être mis dans les meilleures dispositions, en tout cas sur les premières semaines de son arrivée en NFL.
Falcons 21, Texans 19, victoire des Falcons grâce à un field goal de 37 yards à la dernière seconde signé Younghoe Koo. Et celui-là, il faut le mettre au crédit de Desmond Ridder, 28 sur 37, 329 yards, un touchdown, aucune interception. Il a répondu à tous ses détracteurs, moi y compris, il est allé chercher ce match dans les airs. En fin de match, Grégory, l'espoir renaît à Atlanta.
Oui. Oui.
Ah oui, gros espoir.
Non, mais j'attends une confirmation. Tu gagnes malgré tout 2 points contre une équipe. Alors, je vais pas faire un jour à Houston parce qu'on voit que ces dernières semaines, en plus, ils avaient la main chaude, hein. Ils ont gagné à Jacksonville et vu ce qu'on voit ces dernières semaines, c'est pas gagné. C'est pas gagné d'avance et ils avaient mis quand même une petite rouste à Pittsburgh. Donc, ça restait une équipe qu'il fallait un petit peu contrôler à la maison. Après oui, non, je veux pas te dire que la prestation est pas bonne. On attendait enfin que Kyle Pitts soit exploité comme il fallait, ça a été le cas. Les tight ends en règle générale, hein, parce que même Jonnu Smith commence à bien s'intégrer dans ce cahier de jeu, donc ça c'est une excellente chose. Après voilà, je reste juste sur une certaine réserve en attendant de voir la suite, hein, voir si ça peut se confirmer. Mais c'est sûr que c'est clairement pas une mauvaise chose d'avoir un match référence aussitôt dans la saison malgré tout pour Desmond Ridder, avec en plus une victoire à la clé. C'est sûr que c'est bon à prendre pour les Falcons.
Si on t'avait dit qu'il y aurait une victoire avec un match à 96 yards au sol et 351 dans les airs,
il n'y aurait pas forcément, on est d'accord.
Bon, c'était pas le scénario victoire d'Atlanta hyper attendu. Raphaël, est-ce que c'est plutôt une occasion manquée aussi quand même pour les Texans? Ils sont à 4 sur 13 en troisième tentative, 1 sur 3 dans la zone rouge, seulement 24 minutes de possession. Ils ont volé 2 ballons et pourtant ils gagnent pas.
Ouais, c'est notamment là-dessus hein, qu'ils perdent le match. Il y a trop de field goals sur des drives où pourtant les Texans arrivent dans les 25 derniers yards d'Atlanta, donc c'est des occasions manquées. On a vu un Stroud qui a eu peut-être un peu plus de mal que ces dernières semaines. Pourtant, il n'a pas été massivement blitzé. Hein.
Atlanta, bah, avec le pass rush d'Atlanta, ce serait étonnant.
Je te l'accorde. Atlanta a plutôt joué secure là-dessus, mais...
Mais ils ont une bonne défense contre la passe depuis le début de la saison, donc ça a pu en effet poser des problèmes à Stroud pour se connecter avec ses receveurs, notamment en effet dans la zone rouge qui a l'air d'être un vrai problème côté Texan depuis le début de l'année. Ouais.
Non, mais c'est complètement ça. Donc il a eu un peu de mal sur la précision et ça a fait défaut à la fin au Texan. Bon, voilà, il passe à côté de ce match, c'est un peu dommage. Après, encore une fois. Comment dire, ils sont. Je trouve qu'ils sont. Pas tellement, mais ils sont un peu en avance par rapport au niveau qu'on leur donnait, qu'on leur prêtait, que ça me semble pas dramatique, quoi.
On va donc passer au match entre les Raiders et les Packers. 17 pour les Raiders, 13 pour les Packers. Une soirée très très difficile pour Jordan Love, intercepté à 3 reprises. Une attaque en berne du côté de Green Bay. Pourtant, ils ont eu des occasions hein, en fin de match. Mais malheureusement, interception, on l'a dit, punt et interception, c'est les 3 dernières possessions de Green Bay. Ça a l'air d'aller un peu à reculons pour Jordan Love, Grégory.
Oui, après sur ce match-là, bah il y a des mauvaises décisions, ça. Je vais rien vous apprendre, hein, forcément. Après, bon, l'interception sur Amik Robertson, notamment la dernière interception, qui c'est de la victoire de Las Vegas. Bon, c'est un peu à Paris, ça tombe bien vu là où vous étiez. Mais au-delà de Jordan Love, moi c'est pareil. Je vais peut-être revenir un petit peu là-dessus, mais je comprends pas trop les choix du coaching. On parlait d'identité. Pour moi, l'identité de Green Bay sous Matt LaFleur, c'est le jeu au sol. Et même si Aaron Jones s'est blessé depuis le début de la saison, c'est pas normal que ce soit Jordan Love de tirer aussitôt dans la saison, en tout cas, l'attaque, surtout quand t'es dans un match qui joue quand même sur le fil du rasoir face à Las Vegas, qui est pas au mieux. Je suis quand même un petit peu étonné par ça. Donc voilà, on peut que constater les erreurs qui ont été faites par Jordan Love et les conséquences que ça a après sur le tableau d'affichage. Mais malheureusement, voilà, c'est pas normal que Green Bay soit une des plus mauvaises équipes en termes de yards au sol depuis le début de la saison, quand c'est censé être voilà, ton point d'ancrage offensif, on va dire.
Plus les coachs que le joueur, Raphaël ?
Un peu des deux, pour le coup. Je rejoins Greg, c'est vrai qu'il y a toujours des décisions un peu étonnantes avec LaFleur. Mais sur le terrain, t'as aussi Jordan Love qui se rate. Enfin, cette interception lancée dans la end zone alors qu'il te reste 44 secondes au chrono, elle est trop précipitée. C'est un joueur qui, enfin c'est le jeune quarterback qui veut être le héros de son équipe et qui se prend un peu les pieds dans le tapis plutôt que de la jouer sécure et d'avancer un peu mieux. Il y a ces deux interceptions où il lance, les deux interceptions d'avant où il lance quand même dans le trafic, il y a beaucoup de joueurs dans la zone. Voilà, pour moi, il y a aussi là, sur ce match, il y a un défaut d'exécution qui n'est pas aidé et qui n'est pas rattrapé, on va dire, par le cadre et les coachs. Mais j'ai du mal à... J'ai pas envie non plus d'étouffer Jordan Love sur ce match parce que, pour le coup, il y a des interceptions qui, pour moi, il ne doit pas lancer, en fait.
Ouais, mais si tu veux, moi c'est dans le sens aussi où je me dis ça joue à des détails. Alors, c'est la NFL, hein, j'apprends rien à personne, mais si tu regardes, par exemple, la connexion qu'il a avec Christian Watson à un moment donné... S'il n'y a pas ce hors-scolar volontaire de Marcus Peters pour stopper l'offensive, alors derrière, c'est pas interdit de concrétiser en zone rouge pour les Packers, mais t'as potentiellement un touchdown à la clé pour Green Bay. Donc malheureusement, ça se joue à pas grand-chose. Mais voilà, je dédouane absolument pas Jordan Love, hein, entendons-nous bien. Mais c'est vrai que dans la situation dans laquelle est Green Bay aujourd'hui, ça me paraît quand même un petit peu délicat quand même de mettre toute la pression, on va dire, sur Jordan Love, alors qu'encore une fois, ton jeu au sol, normalement, tu dois en voir beaucoup beaucoup plus, quoi.
C'était pas un match de très très haut niveau, en tout cas, ça a été très poussif en première mi-temps, et du côté des Raiders, c'était pas non plus un festival incroyable. 208 yards pour Jimmy Garoppolo, un touchdown, une interception, le jeu au sol est limité à 96 yards. Bon, il y a une sorte d'équilibre, en tout cas, il y a 29 courses pour 31 passes, mais ça reste quand même extrêmement poussif. On parlait d'identité, Grégory, c'est vrai qu'on a quand même un peu de mal à voir sur quel pied danser avec cette équipe des Raiders.
Oui, j'ai l'impression que sur ce match-là, alors manifestement Green Bay avait fait un plan pour pas subir de touchdown de la part de Davante Adams, il voulait pas que ce soit révélé dans les médias. Donc du coup, on l'a surveillé comme le lait sur le feu, ça a ouvert des boulevards à Jacoby Myers. Mais oui, c'est sûr qu'en termes d'identité, d'une semaine à l'autre, on sait jamais quel visage encore on va avoir de la part de Vegas. Après, c'est toujours la même chose un peu avec McDaniel, c'est que jusque-là, notamment depuis le début de la saison, il y avait beaucoup de matchs qui se jouait sur très peu d'un point de vue résultat, mais ça tournait pas dans le bon sens. Là, je pense qu'on va pas se plaindre du côté des fans des Raiders, parce qu'enfin on arrive à concrétiser avec en plus la défense et notamment le backfield défensif qui a souvent été le maillon faible de la franchise du Nevada et qui en plus réussit à valider définitivement la victoire. C'est des éléments à prendre. Ils vont recevoir en plus New England, il me semble, le week-end prochain, sans anticiper. Donc voilà, c'est quand même on peut essayer de surfer un petit peu là-dessus, en plus avec le retour de Garoppolo. Pour éventuellement espérer que du côté de Vegas, on se refasse un petit peu la cerise.
Ça va être un beau match, hein, Raiders Patriots.
Le has-been ball.
Voilà, en termes de créativité de coaching, là, avec McDaniels en plus et tout.
McDaniels, pardon, mais on a quand même un peu l'impression qu'il coach pour ne pas gagner à certains moments. Enfin, il y a des décisions quand même, petit bras. Cette série avant la mi-temps où il récupère le ballon à 1:53, il prend pas de time-out, du coup Vegas punt et lui rend, enfin les Packers punt et lui rendent la balle avec moins d'une minute à jouer. En deuxième mi-temps, cette 4-2, plutôt que de la jouer, il prend un field goal de 53 yards plutôt que de tenter une 4-2. Enfin,
mais de toute façon, c'est sûr que c'est des choses qui sont un peu occultées sur le moment. On a vu pareil à Chicago avec Eberflus et derrière ils vont gagner à Washington. Il y a des déclarations quand même en après-match qui passent pas inaperçues, quoi. Quand on voit que Marcus Peters, Josh Jacobs n'hésitent pas à balancer sur le head coach, c'est qu'à un moment donné, tu te dis que ouais, c'est pas tenu à 100% et il y a un moment donné où là, pour l'instant, on est qu'en début de saison et un bilan de 2-3, mais si vraiment les Raiders commencent à lâcher un petit peu du lest d'un point de vue résultat, ça peut partir en vrille à n'importe quel moment, t'as la sensation quand même.
Clairement. Colts 23, Titans 16, vous vouliez Anthony Richardson et Jonathan Taylor, vous avez eu Gardner Minshew et Zach Moss. Victoire grâce à un touchdown et deux field goals après la pause et surtout une défense qui a bien stoppé les dernières tentatives des Titans. Anthony Richardson souffre d'une entorse acromioclaviculaire de niveau 3. Je vais me présenter en candidat libre à l'examen de médecine, hein. Je veux dire qu'après 15 ans de NFL, est-ce que je suis le seul à m'inquiéter pour Anthony Richardson? Il a joué 4 matchs, il en a fini 1. Il a eu une commotion cérébrale au début de l'année. Là, c'est l'épaule. On le dit beaucoup pour les quarterbacks qui courent, mais là, ça quand même, enfin, ça fait littéralement un mois et demi qu'il est en NFL, quoi. Et c'est un peu inquiétant.
C'est un peu inquiétant, effectivement. Beaucoup de petits bobos et de moins petits bobos qui s'accumulent fortement. ça va peut-être obliger Shane Steichen, leur coach, à revoir un peu le cahier de jeu. Bon, après, en même temps, c'est te priver d'un sacré avantage physique en théorie de ton quarterback. Donc
Après, est-ce que c'est vraiment une si mauvaise nouvelle pour Indianapolis ? Moi, quand je vais regarder Minshew, je sais pas si je préfère avoir Richardson derrière le centre. Hein.
Ah ouais. Moi, je l'ai dit il y a quelques semaines, c'est une énigme que Minshew est pas une équipe, vu les quarterbacks médiocres qui popent cette ligue honnêtement, à certains endroits. Alors,
C'est une mauvaise nouvelle si sur le long terme, le quarterback qui est censé être un tank que t'as pris est un tank un peu fragile.
Ça on est d'accord. Quoi. Mais il restera qu'on aime bien les what ifs en NFL et que tu te diras, t'as balancé un quatrième tour, alors que du coup, cinq places après, il y avait Jalen Carter, blablabla. Enfin bon, bref, on connaît l'histoire. Mais au final, pour l'instant... C'est aussi pour ça que j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi on s'est précipité pour lancer Richardson. Alors, il n'a pas été lancé titulaire en NFL, je pense, par l'opération du Saint-Esprit. Je pense que manifestement, au camp d'entraînement, il a l'air de rassurer. On voit pas un mauvais contenu en tant que tel sur l'échantillon qu'on a depuis son arrivée dans la Ligue. Là, c'est sûr que malheureusement, on peut pas en voir assez. C'est un peu à l'image de sa carrière en universitaire. C'est-à-dire qu'on a des petites bribes, on se dit, tiens, ça peut être intéressant. Et puis finalement, on n'en a pas vu beaucoup. Mais c'est sûr que Minshew, il joue dans le ton de ce que veut Steichen. Et alors, certes, Richardson peut apporter cette plus-value sur le jeu au sol que Minshew n'apportera sans doute pas. Et Minshew peut faire des mauvais choix. On l'a vu par exemple sur sa passe un peu lobée, manquée sur la quatrième tentative en zone rouge, il me semble, pour les Colts. Mais de toute façon, là, l'identité, on la connaît. Ça va être du jeu au sol. Zach Moss, il s'en donne à cœur joie depuis le début de la saison. Jonathan Taylor qui va revenir petit à petit. On va pas demander à Minshew d'aller gagner les matchs a priori sur le papier, donc vraiment cette équipe d'école, ça va être dangereuse, je pense, avec ou sans Richardson.
Ça va bourriner parce que Zach Moss, là, c'est 23 courses, 165 yards, 2 touchdowns. Est-ce que ça servait à quelque chose de donner un gros contrat à Jonathan Taylor? Je fais le troll parce qu'évidemment, il faut qu'il remonte un peu en régime. Ça ira mieux dans 2-3 semaines. Mais en tout cas, c'était assez marrant de voir ça. Garner Minshew qui est quand même une bénédiction pour cette équipe parce que, mine de rien, quand t'as un quarterback fragile et que tu le sais, mettre un bon remplaçant derrière, ça peut être une bonne idée. Certaines franchises l'ont compris, donc ça c'est quand même pas mal. Il prend qu'un sac. Je voulais savoir si on avait retrouvé cette ligne aussi, parce qu'à une époque, c'était une des meilleures lignes de la ligue. Il y a eu un gros passage à vide l'an dernier.
Elle est mieux.
Raphaël.
Elle est mieux depuis le début de la saison, clairement. Et notamment, enfin là tu le dis, hein, pour protéger Gardner Minshew, mais aussi sur le jeu au sol. Enfin, c'est pas anodin qu'un joueur comme Zach Moss arrive à courir autant. J'ai vu passer la stat, c'est quand même le premier coureur à réussir plus de 100 yards contre les Titans depuis l'an dernier, la semaine 1 de l'an dernier. Donc ça faisait un moment quand même que les Titans s'étaient pas fait rouler dessus par un coureur. Là, il réussit et c'est pas forcément sa ligne offensive doit en prendre du mérite. Je pense que Shane Steichen doit aussi prendre son mérite là-dessus parce que à Philadelphie, le jeu au sol marchait quand même bien. Alors il y avait le talent, mais il y avait aussi les bons jeux appelés. Et je pense que Steichen a emmené un peu de ces recettes-là du côté d'Indianapolis. Donc en fait, je trouve qu'ils sont dans le bon scénario parce que comme le jeu au sol marche, ça permet à Gardner Minshew, qui n'est pas le meilleur quarterback, de peut-être aussi moins de pression. Et je pense que Minshew, il est bon dans ce rôle-là aussi quand il n'a pas une pression, on ne lui demande pas de lancer 50 ballons pour aller gagner. Et du coup, c'est la bonne situation à l'heure actuelle grâce à ça.
On parlait de choix sur les lignes offensives, juste rebondis, mais le pari Bernard Raimann, notamment l'année dernière, le tackle autrichien qui était récupéré au troisième tour, je crois, et qui n'a pas autorisé un seul sac depuis le début de la saison et un hit. Donc globalement, oui, je te rejoins. Ça fait partie des composantes, un petit peu ce qu'on attendait de retrouver depuis le départ de Castonzo. Si ça continue en ce sens pour Indianapolis, ce sera clairement pas une mauvaise chose.
Du côté des Titans, on s'est appuyé sur Ryan Tannehill et DeAndre Hopkins, pardon, qui a 8 réceptions, 140 yards. Mais Derrick Henry a été limité à 43 yards en 13 courses. Est-ce que c'est vraiment la clé maintenant? On bloque Derrick Henry et c'est fini, Grégory?
Ça ne devrait pas être le cas, dans le sens où je trouve Ty Spears, le rookie, est plutôt pas mal intégré dans ce cahier de jeu offensif. Alors après, c'est deux profils totalement différents. Hein. Avec Spears, on est plus sur de l'évitement, des appuis un peu fulgurants, et c'est aussi pour ça qu'il est utilisé sur de la réception, forcément beaucoup plus que Derrick Henry. Mais ouais, voilà, c'est malheureusement un peu le prix payé aussi par Tennessee et par son running back pour le fait d'avoir été vraiment le dépositaire quasi exclusif ces derniers mois du côté de Nashville. Aujourd'hui, ça se ressent un petit peu, et aujourd'hui, le jeu offensif devient un petit peu prévisible et caricatural. Et comme en plus on voit que Tennessee dans le domaine aérien n'est pas capable de concrétiser en zone rouge, ou de concrétiser en zone rouge tout court d'ailleurs, c'est sûr que ça complique un petit peu la tâche et il va falloir vraiment plancher là-dessus du côté de Tennessee. Parce que voilà, on parlait de coach has-been, on sait d'où Mavrabel arrive, mais il ne faudrait pas qu'il prenne un petit peu ou qu'il continue d'avoir cette étiquette.
Ouais. On termine avec les Broncos 21, Jets 31, la revanche de l'impitoyable Nathaniel Hackett face au méchant Sean Payton qui a osé dire qu'il n'avait pas été bon l'an dernier avec les Broncos. Spoiler, c'était vrai. La défense des Jets a bien contenu Denver en deuxième mi-temps, y compris en marquant le touchdown de la victoire sur un fumble. Victoire logique des Jets dans le style de l'an dernier. Défense, énorme jeu au sol, 234 yards en 32 courses, dont 177 yards et un touchdown pour Breece Hall. Quand Hall est à ce niveau, ils ont une chance, les Jets, exactement comme l'an dernier, j'ai envie de dire, Raphaël.
Oui, oui, alors c'est vrai que l'an dernier, avec les pépins physiques de Breece Hall, on l'a pas assez vu pour le coup. Mais effectivement, ça avait déjà été une des clés, une des recettes de victoire de plusieurs matchs des Jets l'an dernier. C'est à nouveau le cas là. Quand il est en forme, il a vraiment une capacité d'accélération assez décisive, assez impressionnante, et ça fait la différence. Donc oui, on retourne sur des recettes assez basiques de football, mais qui fonctionnent. Grosse défense, jeu au sol, et tu demandes à ton quarterback d'essayer de faire le moins d'erreurs possible pour pas casser le tout. Ça passe cette semaine parce que l'adversité, on y reviendra, Grégory développera l'adversité, c'est un peu le pauvre, désolé, je te file le bébé. L'adversité est pas terrible, mais bon, c'est encourageant en tout cas s'ils peuvent se céder du jeu au sol cette saison pour aller chercher quelques matchs, c'est pas plus mal, ouais.
Grégory, cette victoire des Jets.
Moi, j'aime beaucoup le storytelling façon NFL, mais alors, la belle histoire de dire Nathaniel Hackett a donné une leçon à Sean Payton en faisant rouler cette attaque, etc. etc. Enfin,
j'en ai un peu rajouté parce que ça m'a fait énormément rire aussi.
Oui, non, mais voilà, j'ai vu passer ça. Les Jets gagnent en ayant subi, donc, alors, en faisant 3 sur 12 sur 3ème tentative, en perdant 2 ballons, en ayant 9 pénalités, en faisant 0 sur 5 en zone rouge. Donc moi je suis d'accord, encore une fois, je vais pas renier le fait que Breece Hall fait un gros match et a sonné justement la révolte côté Jets, parce qu'il faut se rappeler quand même de la première mi-temps de New York, avec notamment cette action absolument grotesque où Zach Wilson met trop de temps à spiker le ballon et ça empêche notamment les New Yorkais d'avoir au moins un field goal pour recoller. Il y a eu des ajustements en deuxième mi-temps et comme je disais, le touchdown notamment au sol de Breece Hall, a sonné vraiment la révolte du côté des Jets. Après, on va peut-être se calmer un petit peu sur le storytelling. J'avais vraiment, quand je regardais le match, j'avais l'impression des fois, je me demandais s'il y avait une des deux équipes qui voulait gagner. Quand tu vois le nombre de turnovers, le nombre de choix vraiment très curieux, de décisions vraiment un petit peu alambiquées, je me dis, voilà, le bon sens a gagné parce que, voilà, il y a un joueur qui était au-dessus du lot offensivement et voilà, bon, il y a la défense des Jets qui a bien fini par resserrer le verrou dans les moments décisifs. Mais ouais, honnêtement, si j'étais fan des Jets, je tirais pas trop de conclusions de ce match-là, parce que Denver, c'est un tel marasme global. Et puis, on parle une des pires équipes contre le jeu au sol. Hein. Je rappelle même pas la performance, notamment contre Miami, avec les stats de Mostert et des Chen. Mais ouais, voilà, c'est pas complètement illogique qu'ils prennent quasiment 200 yards au sol de la part d'un coureur, quoi.
Raphaël, tu rejoins Greg sur c'est pas significatif parce qu'en fait, les Broncos sont cataclysmiques.
Oui, alors je dirais que c'est un tout petit peu significatif parce que c'est pour les Jets et Zach Wilson, je pense que c'est quand même bon à prendre ce genre de victoire pour le mental. Enfin, donc pour eux, c'est un match qu'ils auraient pu perdre aussi, donc c'est pas anodin d'aller le gagner. Mais après, oui, là où je suis forcément obligé de rejoindre Greg et d'appuyer, c'est vrai que l'adversité en face étant ce qu'elle est, une défense catastrophique.
Je sais pas si Vance Joseph va finir la saison, hein, parce que c'est quand même assez fabuleux.
En même temps, Vance Joseph est quand même revenu à Denver avec une espèce de hype, comme quoi c'était un grand coordinateur défensif qu'on n'avait jamais vu. À quel moment Vance Joseph avait conduit des bonnes, voire très bonnes défenses en NFL? Je ne sais pas, mais bon, plein de gens s'enthousiasmaient là-dessus, pourquoi pas. Il y a rien qui marche chez les Broncos. Et cette année, c'est pas la faute de Russell Wilson, c'est peut-être le seul intérêt, quoi. Enfin,
c'est exactement ce que j'allais te dire, c'est que toute la narrative, en plus, ils se sont vengés du méchant Sean Payton qui a dit machin, que Hackett était pas bon. C'est pas l'attaque, en fait, hein, qui fait perdre les Broncos vraiment. Alors là, ils marquent que 21 points, mais ils sont face à une très bonne défense. Donc c'est pas honteux, mais ils marquent des points cette année. Les Broncos, ils en ont mis 31 au match d'avant, 20, ils en ont mis 33. Donc l'an dernier, ils marquaient même pas 20 points par match. Donc évidemment que Hackett faisait un boulot catastrophique et qui était nul. Et oui, c'est dramatique que Sean Payton les fait remarquer et qu'il ait dit quelque chose de vrai dans une conférence de presse. On n'a plus l'habitude, donc on est choqué quand les mecs font
oui,
ça.
C'est
mais...
ça. Après, voilà, il a dit la vérité, et maintenant c'est lui qui passe pour un de deux. Enfin, à un bout d'un moment, voilà.
Non, mais c'est ça qui me fait rire, c'est que après on va me dire, ouais, les mecs ils font de la langue de bois, machin et tout. Là, il y en a un qui a eu le malheur de dire un truc un peu vrai. Bah ouais, l'autre, vous vouliez qu'on lui dise, qu'il dise quoi quand on lui a posé la question? Il a fait quoi, Nathaniel Hackett, l'an dernier? Bah, 16 points de moyenne. C'était génial, je respecte le travail de mes collègues. Bon, il était nul, ça va, pour une fois, quelqu'un l'a dit. Bon, donc, mais du coup, oui, dans les dents de Sean Payton, si vous voulez, mais en vrai, ce qui est inattendu, c'est qu'en fait, après l'attaque l'an dernier, c'est la défense qui s'écroule quoi, cette année. Donc c'est plus ça la leçon pour Denver.
Ah ouais, puis là la transformation est assez monstrueuse et ouais. Je continue là-dessus, hein, mais bon. Très, très bon front office qui a décidé de laisser partir Randy Gregory en lui ayant donné un contrat XXL pendant l'intersaison. Là maintenant, c'est Frank Clark dont on se dit tiens, peut-être qu'on lui a donné trop de sous, on va peut-être essayer de l'échanger. Tout est bien géré de la part de George Patton, donc voilà, c'est une très bonne chose d'avoir donné un premier tour pour aller chercher Sean Payton à New Orleans, enfin, en tout cas pour récupérer les droits de Sean Payton en Louisiane, mais c'est bien aussi de pas juste surfer sur des noms un peu clinquants que tu as sur les postes de quarterback et de head coach d'ancienne gloire et que tu essaies de construire un petit peu décemment, notamment sur du front seven, notamment sur du backfield défensif pour épauler Pat Surtain qui est vraiment tout seul dans ce backfield défensif, même si on sait que Justin Simmons c'est un peu et pas vraiment là depuis le début de l'année. Donc vraiment grosse reconstruction à amorcer du côté du Colorado selon moi.
On va se quitter sur ces mots, en effet, une grosse reconstruction. Et deux équipes, donc deux victoires, trois défaites pour les Jets quand même. On l'a dit quand même depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire que là, c'est un peu les Jets de l'an dernier, donc il y aura des matchs solides comme celui-là, hein, à n'en pas douter. Mais il y en a d'autres où ça passera pas. Donc la reconstruction pour Denver qui a 1-4, en effet, là, ça va être très compliqué. C'est comme ça que se termine l'épisode 647 du podcast Touchdown Actu. On vous remercie de nous écouter. On vous remercie aussi si vous nous soutenez sur Tipeee. Cette semaine, on a rajouté Bravito et Simon à la liste des tipeurs, merci à eux. N'hésitez pas à faire un tour sur tipeee.com/touchdownactu si vous voulez nous soutenir. Vous pouvez aussi nous soutenir en laissant des notes sur les stores avec des étoiles, avec des commentaires, etc. Je sais que Spotify, Apple Podcast, et il y en a quelques autres qui commencent à proposer des notes, mais c'est surtout Spotify et Apple Podcast, donc n'hésitez pas si vous utilisez cela. Pour nous suivre, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TDActu en entier, les réseaux sociaux perso, Raphaël _TDA, Atiello Radiosa et Atala Mattei pour nous trois, et toute l'actu de la NFL, bien sûr, sur TDActu.com. Merci beaucoup, messieurs.
C'est un plaisir.
Et on se retrouve évidemment au fil des journées à venir sur les antennes de TDA. Demain, ce sera Raphaël avec Raoul pour la preview de la semaine 6 déjà. Merci beaucoup, messieurs. À bientôt, ciao ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beastmode pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.